Tudor Brûle, 11 août 1970. 1 Corinthiens 12.
Nous étions déjà occupés de ce chapitre l'année dernière, lors de la dernière journée de réunion d'études. Mais la dernière partie, au moins, n'avait été vue que à la réunion du soir. Et il y avait beaucoup d'absents. Elle avait été vue d'ailleurs assez rapidement. Et il a semblé bon aux frères du plateau que l'on revienne sur cet important chapitre 12, mais particulièrement sur la dernière partie, disons depuis le verset 13. Plus loin. Mais il suffit de rappeler d'abord ici précisément l'importance, la portée de ce chapitre qui est capital pour la compréhension de la grande vérité et de l'unité de l'assemblée, l'Église, plus exactement l'unité du corps qui est le corps de Christ. Et d'autre part, et surtout même, le chapitre qui nous parle de l'esprit opérant comme esprit de puissance dans l'assemblée par le moyen de ce qui est appelé ici les dons de grâce. L'esprit de puissance. On trouvera l'esprit d'amour au chapitre suivant, l'esprit de conseil au chapitre 14. Ici, c'est l'esprit comme un esprit de puissance. Non pas seulement la puissance de l'esprit, une puissance exercée, une influence qui agit, mais est une personne divine agissant dans la puissance divine, agissant sur la terre, agissant ici-bas, dans le temps présent. Son action sera autre quand et l'Église ne sera plus sur la terre. Cette action de l'Esprit, comme personne ici-bas, s'exerce en effet dans l'Assemblée sur la terre, l'Église de Dieu. C'est celle qui est formée par des croyants. Et uniquement les croyants, ceux qui sont mis à part, scellés du Saint-Esprit, et qui sont au bénéfice du baptême du Saint-Esprit, comme nous l'avons dans un verset capital de ce chapitre. C'est dans l'Assemblée, comme personne, que l'Esprit agit. Il habite dans l'Assemblée. Il habite dans chaque croyant individuellement et il habite dans l'Assemblée, c'est sa demeure, sur la terre, comme habitation de Dieu par l'Esprit. Et par rapport à ce que nous avons ici, comme l'énergie animant, l'énergie de la vie nouvelle, énergie divine, animant le corps de Christ sur la terre. On sent l'importance de la chose, sa portée infinie. L'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, dans l'Assemblée. Et il est là, par conséquent, mettant à part, de par sa présence même, cette assemblée sur la terre. Elle est constituée par là, quelque chose d'étranger ici-bas. L'esprit ne travaille pas pour le monde en tant que monde, ni dans le monde en tant que monde. Il travaille dans l'assemblée. Et s'il y a un travail de l'Esprit de Dieu dans le monde, et il y en a un, il se fait, si on ose parler ainsi, du dedans vers le dehors. Mais le monde et l'assemblée sont deux choses entièrement différentes. Il y a le témoignage que le Saint-Esprit rend dans l'assemblée aux yeux du monde et avec l'assemblée dans le monde, et combien nous avons à y prêter attention. Il y a un travail de l'esprit dans le monde pour tirer des âmes du monde, pour amener à la vie, vivifier par la foi en Christ, des âmes qui sont ainsi tirées de ce monde pour être ensuite placées dans le corps de Christ, dans l'assemblée. Témoignage, prédication, mais les instruments dont Dieu se sert, dont l'Esprit de Dieu se sert, ils sont formés là, par le Saint-Esprit, dans l'assemblée. Dieu emploie tous les moyens, cela va sans dire. Mais pour la prédication, nous avons cela amplement dans le livre des Actes, la prédication ne commence et la présentation de l'Évangile ne peut se faire dans le monde que parce qu'il y a une base, un point de départ, il y a l'Église formée sur la terre. Il y a eu la Pentecôte avant toute prédication de l'Évangile et avant tout commencement du christianisme. Ça a été proprement le commencement du christianisme. Et ceci est fort important. Et cet esprit qui agit ainsi dans l'assemblée, il agit comme étant, et dans le chapitre 12, nous avons exclusivement ce travail dans l'assemblée, non pas un travail dans le monde. Mais il se fait comme cette énergie, cette action de l'Esprit de Dieu dans ce qui est le corps de Christ. Ce n'est pas seulement une communauté de personnes ayant la même foi. C'est un corps vivant, un organisme, cela est amplement développé dans le chapitre, mais il est tel parce que il y a un esprit, un seul et même esprit. Vous avez été, l'apôtre parle à des croyants, et seulement à des croyants. Il est évident que des inconvertis n'ont rien à voir dans ces choses, mais en parlant à des croyants, vous avez tous été baptisés, où nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Et alors là, il n'y a pas de différence, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Alors l'action de cet esprit s'exerce dans l'assemblée par le moyen des dons de l'Esprit. Ces dons de grâce qu'il distribue lui-même selon la sagesse divine la pleine connaissance des besoins, des temps, des circonstances, selon qu'il lui plaît, comme nous l'avons lu au verset 4. Mais au verset 11, ces dons de grâce, ils s'exercent ensuite, ils sont employés pour le service du Seigneur, selon la diversité des services relevant tous du Seigneur, car le grand office de l'Esprit de Dieu, nous ne saurions l'oublier, il aurait fallu peut-être mettre l'accent là-dessus plus tôt encore, c'est de glorifier Christ, c'est de mettre en évidence, à sa place, avec tout l'honneur qui lui est dû, la seigneurie de Jésus, de celui que Dieu a exalté, placé à sa droite, l'homme Jésus. Et alors, nous avons vu au tout début du chapitre, n'est-ce pas, c'est par le Saint-Esprit et seulement par le Saint-Esprit que quelqu'un peut dire « Seigneur Jésus », reconnaissant cette seigneurie et l'assemblée, et dans l'assemblée les divers services qui sont appelés à s'effectuer sont à la gloire de cette personne, et selon la seigneurie de ce maître suprême qui est Jésus. C'est pourquoi il est dit, il y a une diversité de services, mais un seul Seigneur. Et l'exercice de ces dons de grâce se fait, oh non pas, selon une volonté ou une direction de caractère humain, mais de Dieu lui-même. Dieu dans sa puissance, dans sa souveraineté, dans sa toute connaissance, c'est lui qui opère, Dieu opérant. C'est la troisième chose que nous avons au verset 6, n'est-ce pas ? S'il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit, diversité de services et le même Seigneur, ensuite, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dieu qui opère. Dans les Éphésiens, nous avons Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est celui que nous trouvons ici. Toute l'opération dépend, découle, on peut dire, de Dieu lui-même. De là, l'importance de ces dons de grâce dans leur diversité. Diversité, l'unité en étant assurée par l'Esprit, par le Seigneur, par Dieu lui-même. La diversité de l'unité. Voilà ce que l'Esprit manifeste dans et par ce corps de Christ. Je dis manifeste, c'est l'expression qui est employée ici, n'est-ce pas? Il s'agit des manifestations spirituelles. Et puis, il est parlé encore de manifestations au cours du chapitre. Ces manifestations de l'activité, de l'action du Saint-Esprit, ces manifestations des dons de grâce, ont des formes très variées, diversité de dons de grâce. Une diversité si grande qu'on peut dire qu'il y a autant de dons de grâce que de services, et il y a autant de services que de serviteurs, et tout enfant de Dieu est serviteur, et nous sommes sur la terre pour servir, et chacun a son service, et chacun à son don de grâce. Ici, l'attention est portée sur des dons de grâce particulièrement importants pour le fonctionnement du corps, mais n'oublions pas la responsabilité de chaque croyant à cet égard. Alors on voit dans ce chapitre que ces manifestations peuvent être des manifestations extérieures, une activité visible, des actes de puissance extraordinaire, des miracles, des guérisons, des dons de langue. Cela était nécessaire pour accompagner la prédication de la parole, mais ce qui est essentiel, c'est évidemment la parole elle-même, la présentation de la parole, ses dons, apôtres, prophètes, docteurs. Dans les Éphésiens, nous trouverions les évangélistes, parce qu'il est question alors de porter l'évangile au dehors et d'amener, on peut dire, de nouvelles âmes dans l'assemblée. Mais ces dons concernant la parole sont évidemment de toute importance. Mais qu'il s'agisse de ces manifestations extérieures, qui ne sont que des choses secondaires, on le voit dans la place qui leur est assignée dans notre chapitre, ou qu'il s'agisse de la parole présentée, ce qui est important, c'est l'action invisible, l'action secrète, l'action du Saint-Esprit dans les âmes, dans les cœurs, sur les consciences, dans les esprits. Et c'est à cela que concouraient à cette époque les dons miraculeux, mais d'abord la présentation de la parole, l'un confirmant l'autre. Et c'est toujours ainsi que, quelle que soit l'époque de la vie de l'Église, et particulièrement dans les temps où nous sommes, dans les derniers temps, c'est ainsi toujours que finalement le Saint-Esprit opère par la parole appliquée à l'âme pour sa bénédiction, mais pour placer le croyant dans la conscience des privilèges qui sont les siens, et par conséquent des grandes responsabilités qui sont les siennes. L'esprit comme consolateur, esprit de vérité, esprit consolateur, nous est présenté dans l'évangile de Jean et dans le passage bien connu du chapitre 14. Le Seigneur disait aux siens que le Père leur donnerait un autre consolateur pour être avec vous, dit-il, éternellement, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quand l'Esprit est envoyé comme esprit de puissance, et c'est ce qui a eu lieu à la Pentecôte, conformément à ce que le Seigneur avait dit à ses disciples au chapitre 24 de Jean, puis dans le premier chapitre des Actes, il y a ensuite la prédication de l'apôtre Pierre et des âmes saisies de compunction qui constituent dès ce moment-là l'assemblée, qui sont baptisées, sur lesquelles qui goûteront les bénédictions spirituelles. Et alors une des premières choses que l'apôtre leur dit, c'est de se séparer. Sauvez-vous. Il s'agissait du peuple, et du peuple qui avait crucifié Christ, du peuple apostat. C'est pourquoi il est appelé cette génération perverse. Mais sauvez-vous de cette génération perverse. Et plus loin, le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Et plus tard, on trouverait dans l'Esprit Saint est communiqué à des croyants qui jusque-là n'avaient connu que le baptême de Jean, dans le chapitre 19 des Actes, eh bien, aussitôt après, on voit l'apôtre qui sépare les disciples et les enseigne spécialement. Peu sur ces choses, c'est parce que il ne manque pas d'enseignement dans ce monde pour parler de l'Esprit de Dieu comme agissant universellement et opérant dans les hommes et comme s'il habitait dans des hommes quels qu'ils soient et les inconvertis. Il n'y a pas de communion entre l'Esprit de Dieu et les idoles.
Trouver un sujet dont l'étude soit plus opportune que celui que nous présente ces chapitres. Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et il n'est pas reparti. Il ne repartira pas seul. Et sa présence ici-bas son activité ont pour objet la formation de l'Église en même temps que le maintien d'un témoignage à la gloire du Seigneur dans ce monde où il a été maltraité comme il l'a été avant que les jugements de Dieu ouvrent les yeux de tous les hommes et que devant la manifestation de ce Christ sera en puissance où chacun sera forcé de le confesser comme le Seigneur, il y a toute cette période chrétienne d'une immense valeur morale qui est celle de l'Église qui a pour mission d'être le vase de la manifestation des gloires de Christ dans un monde qui n'a pas changé, qui est celui que Christ a connu et que l'Église connaît. On a souvent fait remarquer à propos de ces chapitres que de nos jours, dans bien des milieux, chez nous aussi, il arrive que l'on réduise presque les considérations ou les réflexions sur le travail de l'Esprit de Dieu à la conversion des individus. Et le souci étant de voir des âmes qui seront sûres d'aller au ciel. Ce n'est pas la première pensée de Dieu, cela. Et lorsque nous laissons des jeunes frères s'orienter de cette manière ou que nous les y poussons, nous allons contre le courant de la pensée divine. Personne n'a établi ici-bas le christianisme. Dieu s'en est chargé. Et le christianisme que nous avons à vivre de nos jours devrait être le même. Puissance mise à part pour des raisons faciles à connaître, le même que celui du commencement. Nous n'avons aucun droit d'apporter une altération quelconque à ce que le Seigneur a enseigné. Nous n'avons aucun droit d'enseigner autre chose que ce que le Seigneur a enseigné. Et nous voyons que la grande pensée de Dieu pendant cette parenthèse hors du temps, la parenthèse de l'Église, la grande pensée de Dieu, c'est l'Église dans sa formation et l'Église en témoignage. Un témoignage qui est d'une nature qui n'a jamais été connue et qui ne le sera pas dans l'avenir. C'est la gloire de l'Église
de
réaliser son union avec son chef. Et n'y aurait-il au monde qu'un seul groupement de chrétiens ? Ils seraient par la grâce du Seigneur animés par les pensées, les sentiments que, selon les enseignements des Écritures, il n'y en aurait-il qu'un, et qui serait gardé dans une marche correspondant à ce que le Seigneur attendait de son Église, il donnerait autant de plaisir au Seigneur en un sens que l'Église qui fut restée fidèle depuis le début. Pensons à lui. Nous ne convertissons personne. Nous avons à servir, nous avons à enseigner, mais encore une fois, ce chapitre nous montre que quel que soit le genre d'activité auquel nous pouvons être appelés, nous ne l'accomplissons, et il ne peut être approuvé que si notre action est par l'Esprit. C'est bien plus difficile et exerçant et éprouvant de dépendre du Saint-Esprit que de servir à sa guise, selon ses propres pensées, ou en s'entraînant mutuellement à concevoir une certaine façon de servir et d'agir, et à se consacrer à cela. Notre grande affaire, dans tous les détails, pour chacun individuellement et dans nos réunions, c'est la dépendance du Saint-Esprit, et plus elle sera strictement réalisée, plus d'une part le Seigneur sera honoré et aura de joie dans les siens, et plus ceci, nous tous, nous connaîtrons davantage, nous connaîtrons ce qu'est la communion avec lui, et véritablement sa présence. Cela seul apaise la faim et la soif des saints. Le Seigneur a le Saint-Esprit dans l'Église, et même dans les temps de ruine, encore une fois, s'il y a un groupe de chrétiens qui serait fidèle, il pourrait voir des choses bien plus merveilleuses, moralement parlant, car nous n'avons pas à penser à attirer les regards du monde, bien au contraire. Et les manifestations internes d'ordre moral, l'élimination de l'égoïsme, chose introuvable, elle devrait se trouver là. Elle ne peut pas se trouver sans la puissance de l'Esprit-Saint. Il est plus difficile de n'être pas égoïste que de faire des miracles. Ce n'est pas le même ordre de puissance qui est nécessaire. Eh bien, la présence de Dieu opère cela. L'a opéré à la Pentecôte d'une façon brillante. Et si nous réalisons ces réunions autour du Christ et par l'Esprit Saint, bien entendu, non pas en nous réclamant de sa présence comme nous faisons fréquemment, nous n'avons pas tort, mais examinons combien de fois nous le faisons alors que ce ne sont que des paroles des lèvres. La présence du Seigneur dans les rassemblements des saints n'a de valeur que si elle est goûtée. Elle ne peut être goûtée que par l'opération du Saint-Esprit. Notre chapitre ne parle pas de cela, mais il y a une gêne dans cette manifestation de l'Esprit lorsque la chair n'est pas jugée. Et alors, tout notre christianisme va plus ou moins à la dérive. Revenons aux sources. C'est notre seul chemin. Dussions-nous n'avoir qu'un jour à vivre encore ici-bas, nous n'avons rien d'autre à faire qu'à chercher le Seigneur comme il l'a dit qu'il se montrerait. Il y a les dons de toutes sortes, les miracles sont en dernier lieu dans la liste du chapitre 12. La grâce est bien au-dessus de la puissance. Un inconverti peut faire des miracles, Dieu peut le permettre. Judas en a fait, probablement, et tant d'autres. Ne mettons pas au premier rang les côtés, les manifestations extérieures qui peuvent frapper et qui peuvent attirer les regards et nous faire paraître des gens extraordinaires. Au contraire, cherchons les effets intérieurs, chacun pour son compte. Si nous le faisions mieux, chers frères et sœurs, âgés et jeunes, nous connaîtrions beaucoup mieux ce qu'est le ciel sur la terre et nous serions beaucoup mieux être les témoins dont nous rendons le témoignage que le Seigneur a tendu le rendre par l'Esprit Saint. Et combien cela est vrai dans nos réunions. Le chapitre 14 nous conduira à cela, n'est-ce pas? Conduira à cela. Mais nous pouvons déjà le dire, c'est lui qui opère toutes choses et ce qu'il ne fait pas n'est pas bon, n'est-ce pas? Et ce qu'il fait ne peut pas ne pas être bon. Seigneur, dans ce monde où il y a des démons et qu'ils font savoir, des démons que le Seigneur a rencontrés, des démons parmi les païens, et il y en a aussi dans la chrétienté, et Satan conduit beaucoup plus de choses dans les activités chrétiennes qu'on ne le pense, eh bien, l'Église devrait être la manifestation d'un état de choses où le Saint-Esprit, lui, opère. Et cela à la gloire du Seigneur. Et ce serait un témoignage qui exprimerait de la plus forte manière que sur la croix, Satan n'a pas été vaincu, le Seigneur n'a pas été vaincu, mais c'est lui le vainqueur.
Et au fond, si l'on veut bien, on pourrait résumer que tout le témoignage de l'Église se réduit à ceci, de manifester au cours des siècles que Christ vaincu en apparence à la croix est le vainqueur éternel.
Les esprits sataniques qui s'était ligué contre notre Sauveur mis en croix. L'Épître aux Colossiens nous affirme, nous présente ceci, c'est que là, celui qui fut un Christ crucifié en infirmité a triomphé là, en la croix, de toutes les puissances spirituelles de méchanceté, tout ce que Satan avait mis en œuvre pour empêcher l'œuvre, le travail divin de la rédemption. Nous voudrions ne point trop insister, mais nous savons, par nos expériences personnelles, par nos sentiments personnels, par ce que nous discernons au milieu de nous, nous savons que cette notion fondamentale, savoir que le christianisme est le fait du Saint-Esprit, combien cette notion-là est importante à saisir, on ne peut la saisir que par la foi, est importante à vivre et à réaliser dans le secours de l'Esprit Saint pour la gloire du Seigneur lui-même. Peut-être y reviendrons-nous encore au cours de ces journées, mais il faut nous rappeler, sans revenir très loin en arrière, de l'état de la chrétienté, celle qui professait être engagé sur les traces du Christ au début du siècle dernier. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et le remercier de tout notre cœur de ce que le grand travail de l'Esprit Saint, tel qu'il a opéré dans la période qui a suivi ce temps de sommeil spirituel. L'Esprit Saint a alors réveillé les âmes pour fixer les affections de ceux qui étaient alors convertis amené par la nouvelle naissance à la connaissance du salut par grâce, fixer les âmes sur la personne du Seigneur, faisant valoir cette personne au milieu de ceux en lesquels l'Esprit de Dieu plaçait la vie du Christ. Il n'est que de voir avec quelle ferveur et quelle clarté donnée par l'Esprit lui-même ceux que nous aimons à appeler nos devanciers, parce qu'en réalité ils ont été tels. Le souci qu'ils avaient de tout ramener de leur enseignement à cette personne que le Saint-Esprit faisait valoir par sa parole dans les cœurs de ceux qui devaient constituer le témoignage des derniers jours. Et si nous sommes en danger d'oublier ces choses, disons, bien que nous les connaissions par l'intelligence, de les réaliser en pratique, nous serons infidèles à ce qui est l'attente du Seigneur lui-même, nous méconnaîtrons en pratique la puissance de l'Esprit Saint. Toutes les fois que la chair se mêle de l'œuvre de Dieu, avec toute bonne volonté, et il ne s'agit pas pour nous de blâmer ou de porter un jugement quelconque, mais toutes les fois que ce travail du Seigneur par le moyen de son Esprit se trouve entravé en des initiatives dont la source n'est pas pure, le résultat n'est plus la manifestation de la gloire du Christ. Et c'est l'homme qui se met en avant. Pour ce qui est en particulier du culte, combien nous aimons souvent à chanter, quelle douceur dans ce culte de frères où l'Esprit Saint est notre directeur. Le chanter, c'est bien, le croire aussi, mais le réaliser, c'est là l'important. Et toute âme pieuse, dirions l'âme la plus simple, qui se trouve là dans la présence du Seigneur, a le sentiment souvent douloureux que ce que nous chantons, nous sommes en danger de le méconnaître en pratique. Laissez l'Esprit Saint diriger toute chose dans l'assemblée, dans le rassemblement des croyants. C'est une nécessité impérative, en sorte que dans la paix, tout fidèle en éprouve et le pouvoir et la réalité. Nous sommes peut-être un peu loin du sujet, mais il est bon que nous soyons tous, jeunes ou vieux, constamment exercés à cet égard. Alors, l'Esprit qui distribue comme il lui plaît saura produire dans le cœur de ceux qui désirent, qui ne désirent autre chose que la gloire du Seigneur, ce qui orientera les pensées, remplira les cœurs de lui-même.
Et nous avions à revenir aux sources, à demeurer dans ce qui a été établi dès le commencement. Et en effet, ce que nous avons de si fortement établi dans ce chapitre demeure malgré tout ce qui a marqué l'histoire de l'Église, malgré le sommeil, malgré les abandons, malgré la mondanité, malgré cette union de l'Église et du monde qui excluait l'action de l'Esprit. La vérité de Dieu demeure. Comment, au cours des temps, la puissance divine a-t-elle maintenu, sous quelle forme, comment Dieu l'a-t-il vu, la réalisation de ce que nous avons ici? Il ne nous appartient pas, dans l'immense majorité des cas, de le discerner. Mais ce qui a été si fortement souligné tout à l'heure doit être devant nous. Dieu a ramené devant les esprits des siens la valeur de l'enseignement apostolique sur l'Assemblée. L'Assemblée quant à son origine, l'Assemblée quant à sa formation, l'Assemblée quant à son espérance, quant à sa vocation céleste, l'Assemblée quant à la puissance, la présence et l'activité du Saint-Esprit au milieu d'elle. Et quand nous disons l'Assemblée, prenons bien garde de ne pas faire de confusion ou de créer quelque équivoque. Nos chapitres que nous avons sous les yeux insistent essentiellement sur l'unité. Unité de l'Esprit, unité du Seigneur, unité de Dieu, cela nous est dit en propre terme. N'est-ce pas? Il y a le même Esprit, il y a le même Seigneur, il y a le même Dieu. Et il y a un seul corps. Un seul et même corps. La conséquence de la mondanisation de l'Église, et disons de la mondanisation, j'allais dire du christianisme, disons la formation de la chrétienté, c'est-à-dire d'une humanité, d'une partie de l'humanité teintée de christianisme. Eh bien, ça a été précisément de méconnaître cette unité, même lorsqu'elle a prétendu la garder. De faire une unité ou des unités indépendantes de l'action de l'Esprit et indépendantes de l'enseignement de la parole. Alors que l'enseignement que nous avons ici parle d'une diversité de dons de grâce, diversité de services, tout cela dépendant du Saint-Esprit seul. On a attribué des services, on a voulu reconnaître des dons où on a mis en activité, et cela depuis des siècles et des siècles, depuis presque le tout début. Des hommes dont certains même n'étaient pas convertis, mais qui en tout cas étaient loin d'être toujours qualifiés par le Saint-Esprit et mis à part par le Saint-Esprit. Mieux que cela, alors que il est parlé ici de la diversité des membres, chaque membre ayant sa fonction et sa fonction propre que d'autres ne peuvent pas remplir à sa place. On a, et depuis bien longtemps, et dans bien des communautés chrétiennes, on a confié à un seul homme, à un ministre de culte, un ensemble de responsabilités qui demandaient pour qu'il y fût fait face des dons divers de l'Esprit. Ce sont là les deux côtés, on peut dire, de la perversion de du christianisme et de l'idée de l'Église dans ce monde. Et chacun peut méditer sur ces points-là. Ajouter, car cela tient aux mêmes racines, que l'on a voulu former des hommes à tel ou tel ministère, indépendamment de l'esprit. Or, si le Seigneur nous a amenés, par sa grâce, à lire ces passages tels qu'ils sont, et s'il a bien voulu nous éclairer quant à leur signification, qu'est-ce que nous voyons ? C'est qu'il n'y a qu'une Église. Il n'y a pas des Églises, il n'y a pas l'unité de telle ou telle Église, et puis l'ensemble d'Églises ou de dénominations ou de sectes, comme on voudra, mais qui ensuite peuvent se réunir pour faire une unité. Cela ne s'est jamais vu. Il n'y a pas une unité de plusieurs corps. Plusieurs corps ne font jamais une unité, c'est pas possible. Mais plusieurs membres du même corps font une unité. Voilà l'enseignement de notre chapitre. Toute église particulière nie, volontairement ou non, sciemment ou non, nie la vérité de l'unité du corps. Il est singulier que tant d'esprits sincères, éclairés par ailleurs sur d'autres points, ne voient pas cela à notre époque. Dans la diversité extraordinaire des activités chrétiennes ou dites chrétiennes, suivant le cas, il y a une Église, il n'y en a jamais eu qu'une, et il n'y en a qu'une. Et elle ne porte pas, elle ne peut pas porter de nom particulier, sinon l'Assemblée de Dieu, ou si l'on veut l'Assemblée de Christ, car l'une et l'autre appellations sont exactes. Mais ici, c'est toujours le corps. Vous avez été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Ah, c'est le cas de reprendre l'expression de l'apôtre au premier chapitre de cet épître. Le Christ est-il divisé ? Ce n'est pas possible. Son corps ne peut pas être divisé. De quoi est donc formé son corps ? Que sont ses membres dont chacun a sa fonction ? On ne saurait trop le répéter, ce sont tous les enfants de Dieu, tous ceux qui, à l'heure actuelle, et génération après génération, pendant tout le temps du christianisme, ont reçu la vie de Dieu. La première chose, ça a été la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, l'âme en prenant conscience ensuite par le scellement, par du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit. Une âme qui peut s'adresser à Dieu en lui disant « Abba, Père ». S'adresser au Seigneur Jésus en le reconnaissant vraiment comme le Seigneur. Non pas seulement comme le Sauveur mort sur la croix pour des pécheurs. Et même quand on se reconnaît soi-même pécheur. Et c'est bien le premier pas, et c'est la chose essentielle, et c'est pourquoi il faut bien qu'il y ait une évangélisation dans ce monde, et Dieu y a toujours pourvu, et il pourvoira. Mais ensuite, par l'Esprit de Dieu, on donne gloire à Jésus, et on reconnaît Dieu comme Père, et on ne peut que désirer être conduit par cet Esprit. Et que désirer trouver d'autres croyants et se réunir avec eux. Je pense que chacun a pu éprouver cela. C'est un besoin de l'âme du croyant, de l'être renouvelé. Mais comment ce besoin peut-il être satisfait sinon par l'obéissance à la parole, sinon
par la docilité à l'Esprit Saint qui toujours a pour but de glorifier le Seigneur Jésus et qui rassemble toujours autour de lui. Et il n'y a pas d'autre centre. Alors cette église, cette assemblée, est telle qu'elle est pour Dieu, telle qu'elle est pour Christ, mais elle est formée d'un nombre très grand et que nous ne pouvons préciser en aucune manière, parce que Dieu connaît ceux qui sont siens, surtout dans la confusion actuelle, mais du grand nombre des rachetés qui sont vivants sur la terre à l'heure présente. Et il ne s'agit pas ici, la plupart d'entre nous ici sont familiers avec ces choses, mais peut-être n'est-il pas mauvais de les redire. Cela n'a rien à voir avec telle ou telle église, telle ou telle appellation. On est chrétien, si on est vraiment chrétien, vitalement, on est membre du corps de Christ, on est membre de Christ. Comme nous l'avons ici au verset 12, n'est-ce pas ? Un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Et ensuite, alors, dans ce corps, chacun a sa place. Chacun a son activité. Chacun reçoit de l'Esprit lui-même l'indication du service à accomplir. Et cela en vue de l'utilité. Non pas pour sa satisfaction propre. Non pas pour la glorification de l'âme, mais pour le bien de l'ensemble à la gloire de Christ. Et selon la volonté de Dieu. Verset 11, le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Au verset 7, il a été dit, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Et prenant la comparaison avec un corps humain, on trouve, l'apôtre pourra dire au verset 18, « Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. » L'Église, un organisme dont Dieu est le créateur, le formateur, le souverain, dont Jésus glorifié le Seigneur, et dont l'Esprit est la puissance, le distributeur des activités et finalement de la vie sous toutes ses formes.
Produit par le Saint-Esprit au siècle dernier, n'a pas entraîné tous les chrétiens de l'époque. Ce qui reste de ce mouvement non plus. Mais ça a été une grâce du Seigneur de remettre à la surface la vérité ensevelie longtemps concernant l'Église comme selon sa pensée. C'est une grande grâce qu'il nous accorde de connaître cela, un honneur. Et nous serions assez soulignés cette remarque pour les jeunes chrétiens, les jeunes frères et les jeunes sœurs. Leur chemin le meilleur, le seul qui soit bon, c'est celui de s'attacher à ce que le Seigneur a dit, à sa personne. Et à ne pas se laisser tenter pour la réalisation d'un christianisme mélangé. C'est-à-dire, on ne rejette pas toute l'écriture, mais on ne l'accepte pas toute non plus. Cela n'est pas le signe que l'œil est simple. Il est vrai que les personnes peuvent être entraînées. Nous avons à avoir le cœur large aussi large que celui de Christ. c'est-à-dire embrasser dans nos pensées et nos affections tous les chrétiens du monde. Répétons encore que les fidèles, ceux qui sont fidèles aux enseignements du Seigneur, sont les seuls à ne pas être sectaires. Parce que les principes qui régissent leur pratiquement leur rassemblement sont tirés de l'Écriture, sont la pensée de Dieu. Tandis qu'un ensemble est sectaire quand, avec des vérités, on verra des vérités divines, ils mêlent des pensées humaines. Et les pensées humaines, c'est moi, c'est une secte, c'est pas Dieu. Il n'y a que ce qui est de Dieu qui n'est pas une secte. Et Dieu bénit des sectes, nous savons bien, et nous avons à faire entendre, à bien comprendre cela, que l'Église est en ruine, mais que c'est un principe de Dieu aussi de ne pas restaurer ce que l'homme a détruit. Ah non. L'Église est en ruine, elle tient fidèle, et bien le Seigneur dit, voilà, elle portera les conséquences de son infidélité. Seulement, il a produit un témoignage, au siècle dernier, ce témoignage évidemment a déjà décliné, nous le sentons bien, et c'est pourquoi nous pouvons considérer ces chapitres-là d'une façon extrêmement sérieuse, et non pas pour faire des études de texte. D'ailleurs, l'Écriture tout entière ne se prête pas à cela. C'est une profanation que de le faire. Nous embrassons tous les vrais chrétiens à la scène quand nous rompons le pain. Un seul pain, un seul corps.
Si nous ne le faisons pas, nous sommes sectaires. Mais si nous agissons ainsi, Dieu nous bénira. Parce que nous sommes d'accord avec lui, d'accord avec le Seigneur. Une autre partie de la vérité. Nous ne pouvons pas manifester une communion aussi large que nous aimerions. Nous sommes obligés de nous tenir à distance d'éléments très pieux, mais qui, dans leur vie individuelle ou collective, acceptent des principes incompatibles avec la pensée du Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir d'autres directives que la pensée du Seigneur à cet égard, et tous, frères et sœurs, devraient pouvoir justifier leur séparation comme étant divinement convaincus de sa légitimité. Que le Seigneur engage dans son chemin les jeunes frères et qu'il leur donne cette conviction nécessaire. Nous avons à veiller dans les réunions à ce que le Saint-Esprit agisse de façon à ce que nous soyons heureux. Et s'il y avait ce bonheur qui a pu être goûté au début de l'Église, les jeunes âmes n'iraient pas chercher ailleurs, ou beaucoup moins. Tandis que s'il n'y a pas cette joie, elle risque d'être entraînée vers d'autres sources. Nos joies sont produites par la présence de Dieu. Si on ne goûte pas la présence de Dieu dans les réunions, les âmes sont malades, insatisfaites, et elles sont en danger de s'engager dans des chemins non frayés et d'être emportées par des influences humaines ou même sataniques. Pour goûter la présence de Dieu au milieu de frères non illettrés, ou au contraire instruits, c'est la piété qui est nécessaire, et les effets de cette bénédiction sont d'une incomparable valeur.
D'aider les jeunes à ne pas se laisser entraîner par des voies, même quelquefois de frères ou de sœurs, à se laisser entraîner à des chemins qui ne sont pas le chemin de Christ. Pour l'Église, pour la vie collective des saints, il n'y a que Christ encore. Pour la vie individuelle aussi, nous nous aidons les uns les autres, mais en fond, nous nous aidons les uns les autres à mieux suivre le Seigneur, à nous tenir plus près de lui. Voilà tout le résultat de tous les services. Étant des frères ou de jeunes frères, il y en a, Dieu veuillant multiplier le nombre, sont appelés à évangéliser, ils ont l'immense privilège et la supériorité sur d'autres chrétiens qui font un service analogue, de savoir que non seulement ils travaillent en vue du salut des âmes pour le ciel, mais ils travaillent en vue de la gloire et de la joie du Seigneur sur la terre, et ils peuvent conduire les âmes converties au centre où Christ a promis sa présence. Des quantités de personnes ignorent cela. Et si un jeune frère, par exemple, ne fait pas cela, il est hautement infidèle. qu'il ne peut pas, il ne peut pas invoquer l'ignorance dans son cas. Ou alors, c'est que sa connaissance était tout entière dans la tête. Alors, il ne l'a pas encore appris, c'est clair.
Ou qu'il n'a pas été clairement enseigné. Et nous avons tous à reconnaître combien peu ces enseignements pourtant si simples nous sont peu familiers, comme nous devrions les connaître davantage. Mais cette réalité de l'unité du corps du Christ, de l'unité de l'Assemblée, mais comme nous avons besoin de la saisir et de la maintenir, n'est pas l'unité d'un corps chrétien, c'est l'unité de Christ, du corps du Christ. Du moment que nous appartenons à Christ, nous faisons partie de ce corps, et il n'y en a pas deux, il ne peut pas y en avoir deux ou plusieurs, il n'y en a qu'un. Une assemblée locale ne peut pas se considérer comme étant toute l'Église, c'est évident. Mais elle est, nous employons le terme, et je crois qu'il est juste, encore ne faut-il pas en abuser, mais enfin, elle est l'expression de l'ensemble de l'Église. Et j'attire l'attention sur le verset 27 que nous avons ici. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. À qui l'apôtre s'adresse-t-il? Qui sont ces « vous êtes le corps de Christ » Il n'y a qu'à lire la suscription de l'Épître, n'est-ce pas? À l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur est le nôtre. Il s'adressait directement à l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, mais par-delà cette Assemblée et inséparable de cette Assemblée, il y a tous les sanctifiés dans le Christ Jésus, tous les mis à part par la grâce de Dieu et par la foi dans le Christ Jésus, saints appelés avec tous ceux qui en tout lieu invoque le Seigneur, Jésus-Christ d'un cœur pur. Invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et leur Seigneur est le nôtre. Alors, vous êtes l'Assemblée de Dieu. Vous êtes une Assemblée de Dieu, oui, c'est vrai, mais en tant que l'Assemblée de Dieu sur la terre. Vous êtes l'Assemblée de Dieu sur la terre telle qu'elle est à Corinthe. Et nous appliquons cela aujourd'hui à toute localité. On comprend que cela exclut les divisions en une église appelée d'un tel nom, une église d'un tel autre. Mais cela suppose que ceux qui se rassemblent sur ce fondement-là, sur ce terrain-là, comme nous avons l'habitude de le dire, ont bien conscience que ce n'est pas pour former un groupe nouveau, meilleur que les autres, ou obéissant à la parole mieux que les autres, sauf sur ce point-là, mais qu'ils se rassemblent parce qu'ils ont conscience d'appartenir non pas à une église particulière, mais à la seule et même et unique Assemblée de Dieu. Vous êtes l'Assemblée de Dieu. Une particularité d'ailleurs qui n'est peut-être pas inutile, sans faire loin de là une étude de texte, mais on mettrait l'article « le corps » entre crochets, comme on met plus loin « et ses membres », c'est-à-dire comme un mot que la langue française exige là, non, mais qui n'est pas dans le texte original, on serait dans le vrai. L'article n'existe pas dans le texte grec. De sorte, on lirait « Vous êtes corps de Christ, vous rassemblez comme corps de Christ, comme faisant partie, non pas d'un petit corps de Christ ici à Corinthe, mais comme l'assemblée universelle. »
cela est de toute importance. Mais alors, ses membres, chacun en particulier, pour que vous fonctionniez comme le corps de Christ, il faut que chaque membre soit à sa place et agisse comme étant à sa place. Agisse sans envier un don que l'on estime supérieur au sien. C'est ce que nous avons au verset 15, n'est-ce pas? Il ne faut pas que le pied dise « parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps ». Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela, elle n'est pas du corps? Enfin, le corps tout entier ne peut pas être un seul organe, ne peut pas être œil. Et s'il était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Donc, ne pas envier une autre place que celle que Dieu nous a donnée, en considérant que c'est la place supérieure à laquelle nous puissions aspirer et dans laquelle nous avons à servir, à glorifier Dieu. Et inversement, alors, que celui que Dieu a placé à un poste qui attire peut-être plus les regards, un poste plus évident, un don plus visible et dans lequel la chair serait portée à se glorifier, qui prenne garde de ne pas mépriser celui que l'on considérerait comme un don inférieur. C'est pourquoi on trouve au verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, je suis supérieur, je n'ai pas besoin de toi. Ou bien encore, la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Sont nécessaires et ils sont indispensables, mais en quoi sont-ils indispensables? À leur place, en restant à leur place, en fonctionnant comme ils sont appelés à fonctionner. Je n'ai pas de grande connaissance en anatomie, mais je sais du moins qu'il y a de tout petits organes cachés, on en découvre, paraît-il, chaque jour de nouveau, et qui sont d'une importance vitale qui n'avait jamais été aperçue jusqu'ici, et qui pourtant était aussi nécessaire au bon fonctionnement du corps d'Adam qu'à mon corps. Eh bien, on n'en parlait pas, on ne les connaissait pas. Et ils étaient indispensables. Où? À leur place. En fonctionnant comment? Là où Dieu les avait mis. Eh bien, nous sommes les membres du corps du Christ, chacun en particulier. Il est bon que nous nous rendions compte de ce que le Seigneur nous demande, d'être bien persuadés que nous sommes là où il nous a mis, et de bien considérer pourquoi il nous y a mis, ce qu'il nous demande de faire, et qu'il nous soit accordé de le faire dans l'humilité, dans la docilité, dans la dépendance, et de le faire alors une autre pensée que nous apercevons là dans les versets 24 et suivants, que l'on retrouvera un peu plus loin, c'est que l'unité du corps étant une réalité, la solidarité des membres est une chose, ça existe, et quand un membre souffre, l'autre souffre avec lui, même s'il n'a pas connaissance de la souffrance de celui qui souffre. Et inversement, si un membre est glorifié, l'autre est glorifié avec lui. Autrement dit, étant ainsi un dans le corps de Christ, nous ne pouvons nous dissocier les uns des autres. Cet égoïsme dont il a été parlé, et qui est propre à notre corps naturel, à notre cœur naturel, c'est le plus grand ennemi intérieur, en effet, à la réalisation de ces choses, à la réalisation pratique de l'unité. Avoir soin les uns des autres, combien cette expression est belle, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Non pas seulement soin des membres qui nous seraient peut-être naturellement les plus agréables, avec lesquels nous aurions le plus d'affinité. Non, un égal soin les uns des autres. Cette égalité dans le souci fraternel, dans cette unité réalisée d'un corps où chacun a sa place. Est-ce que nous pensons bien à cela?
Les plus faibles paraissent, n'éprouvent quelques difficultés. Pourquoi tu n'as pas dit qui est faible, mais qui paraît?
Bon. La comparaison avec les, est faite avec le corps humain, n'est-ce pas? Et c'est à ce propos que cela est dit. Selon ceux qui n'ont pas d'apparence, effectivement, et qui semblent inutile, sans force ou sans force, et dont on cependant ne peut pas se passer. Dans une assemblée, disons dans une assemblée locale, qui donc, sinon le Seigneur, sait quel est le membre le plus efficace? C'est peut-être celui qui, à vue humaine, a le moins d'apparence. Le plus faible, le plus humble, le plus caché, le plus inactif en apparence, peut-être quelqu'un qui est sur un lit de langueur ou de souffrance, mais qui a la prière. Je pense qu'il suffit d'indiquer la chose en passant.
Ce sont des sujets d'une extrêmement intéressants, pratiquement. Le fraternisme disparaît là. Fraternisme humain, ce n'est pas à dire qu'il n'a pas sa place, mais dans la vie propre de l'Assemblée, il ne l'a pas. C'est l'action du Saint-Esprit, encore une fois, qui produit cet état-là. Ce sont des états, l'état des cœurs et des consciences. Ce n'est pas l'effet d'affinité naturelle ou des relations naturelles. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là. L'Assemblée tout entière n'est pas établie sur ce terrain-là. Encore une fois, nous ne méprisons pas les relations naturelles, c'est clair. Mais si le Seigneur nous élève au niveau de sa pensée, nous devons le suivre. Nous avons toujours avantage à le suivre. Et il est évident que le fraternisme, cela, le mot a été employé par nos devanciers justement pour souligner plus d'une fois un danger qui se faisait jour. Et où, par l'influence des sentiments de cet ordre, le Seigneur était relégué peu à peu en arrière. C'est là le grand danger. Grand danger, sous des apparences qui ne sont pas mauvaises, nous pouvons très bien perdre la présence du Seigneur pratiquement, c'est-à-dire, autrement dit, selon notre chapitre, perdre l'action, la puissance de l'Esprit Saint. Elle peut être arrêtée. Nous devons reconnaître les dons que le Seigneur donne. Nous sommes tenus de reconnaître Dieu dans les siens. C'est un heureux devoir. Nous reconnaîtrons sans peine, au contraire, avec joie, si nous voyons un don, n'est-ce pas, et un don, pasteur, docteur ou autre, chez un chrétien qui vit dans la grande chrétienté. Il y en a sûrement, mais nous n'hésiterions pas à reconnaître la valeur de son don si nous trouvons qu'il est là. Il a affaire au Seigneur et c'est le Seigneur qui donne les dons, ce ne sont pas les frères. Qui sommes-nous pour contester au sujet d'une qualification que le Seigneur a produite dans quelque homme que ce soit? Qui sommes-nous? C'est aussi là que les affections se montrent larges comme celles de Dieu. Que chacun dans l'Assemblée exerce l'activité qui lui est assignée, c'est pour le bien de tout le monde. Un paresseux à cet égard ne remplit pas son service. Et il peut arriver aussi, et nous avons sans doute à le reconnaître tous d'une manière ou d'une autre, que nous pouvons dépasser notre don, notre mesure. Tout cela, nous avons, en cela, inévitablement, nous avons manqué de dépendance vis-à-vis de l'esprit, qui jamais ne nous conduira. Jamais l'esprit n'encouragera la chair, jamais. Il est dit dans un passage bien connu et frappant, il convoite dans l'individu, il convoite contre la chair, et la chair contre l'esprit. L'esprit n'approuve jamais la chair, jamais. Je voulais faire encore une remarque à propos de l'unité. Il arrive assez souvent que dans les lettres de recommandation que l'on entend lire le dimanche, on parle, les rédacteurs de ces lettres parlent de la foi qui nous unit, l'amour qui nous unit. Souvent. Ça n'est pas faux. L'amour est le lien de la perfection. Mais, et de même aussi, la foi, la même foi, comme une foi, fait bien qu'il y a une union entre les saints qui ont cette foi-là. Mais, j'ai souvent pensé, je le dis librement, que nous serions sur un terrain plus sûr en parlant de l'esprit qui nous unit, car la véritable unité, elle est exclusivement par le Saint-Esprit. C'est l'unité organique, essentielle, fondamentale, qui réalise donc cet ensemble formé par un corps, d'un corps formé par divers membres. Mais les autres unités sont des unités plutôt, auxquelles on fait, je viens de faire allusion, plutôt pratiques, dans l'ordre pratique, des relations entre les saints. Mais ne perdons jamais de vue l'unité fondamentale, et c'est ce qui fait qu'en pensant à cette unité, eh bien, nous pensons à un chrétien catholique, si nous connaissons, eh bien, nous sommes dans les mêmes relations d'unité essentielle. Et pas du tout dans les mêmes relations, évidemment, de communion. Encore une fois, amour et communion sont deux choses différentes. Nous pouvons aimer un chrétien dans la chrétienté comme nous aimons notre frère, seulement nous n'avons pas avec lui et nous ne pouvons pas avoir avec lui les joies de communion que nous avons entre les frères. Et même entre les frères, les degrés de communion varient grandement dans la même assemblée. Encore un mot. On parle des membres qui sont les moins visibles, les moins apparents, et dont l'action est moins évident qu'on a manifeste. On a souvent dit à cet égard que le cœur, personne ne l'a jamais vu et que c'est l'organe le plus vital dans l'organisme humain. Et des frères et des sœurs auront pu, de nos jours, Dieu le sait, c'est peut-être moins courant, auront pu, quand tout sera manifesté, agir d'une telle manière en restant à leur place, celle que le Seigneur leur a signée, et sans que peut-être beaucoup de personnes aient jamais découvert cela, auront pu agir d'une manière où il sera manifesté qu'ils ont été les éléments les plus efficaces, comme on venait de vous dire tout à l'heure, et qui auront le mieux servi au bien de l'Assemblée. Nous n'avons pas à nous cacher de façon volontaire. Si nous avons un service public, il faut le faire, en nous attachant à le faire avec le Seigneur et par l'Esprit Saint. Ce n'est pas plus facile.
L'Église n'a pas été bâtie sur l'unité de la foi. Ça paraît paradoxal, mais c'est ainsi. L'Église est un corps formé de tous ceux qui, par la même foi, appartiennent à Christ, c'est certain, mais c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est le travail de l'Esprit, et c'est l'unité de l'Esprit. Pareillement, pour la nouvelle naissance, nous sommes nés d'eau et de l'Esprit. La foi saisit cela, elle en jouit dans la mesure où elle est éclairée, mais c'est le travail de l'Esprit et qui est le travail initial. Ce n'est pas notre foi qui en impose à Dieu. Ce n'est pas notre foi qui oblige Dieu à quelque chose. Si c'était ainsi, ce ne serait pas la foi, pas la véritable foi. C'est Dieu qui opère, il opère par son esprit, par sa parole, et la foi reçoit les croyants, ceux qui sont amenés sur ce terrain nouveau et dans cet état nouveau d'enfants de Dieu, sont appelés à progresser dans la foi. Dans la foi, prise cette fois dans le sens de l'objet de la foi, parole et par-dessus tout la personne du Seigneur Jésus. Dans les Éphésiens, il nous est dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. C'est un travail progressif, mais l'unité de l'Assemblée, ce n'est pas un travail progressif, c'est un travail fait. Le baptême de l'Esprit Saint a été fait à Pentecôte, les âmes y sont amenées les unes après les autres, mais l'unité de l'Esprit, elle est faite, elle est indestructible, autant que l'unité du corps, ou plus exactement, il n'y a pas d'unité du corps sans unité de l'Esprit. Le corps est un organisme qui est vivant parce qu'il a le même esprit. Aussi, nous ne sommes pas appelés à faire l'unité du corps, Éphésiens 4, mais à garder l'unité du corps, ce qui est autre chose, et à nous efforcer de le faire. L'apôtre reconnaît lui-même, et l'Esprit de Dieu reconnaît des dons de grâce plus grands, conférant une plus grande responsabilité à ceux qui sont tenus de les exercer, mais ne leur conférant pas à eux-mêmes une grandeur particulière, bien au contraire. L'apôtre Paul, quand il parlait de sa personne, n'en parlait pas de manière bien flatteuse. Et il reconnaissait qu'on pouvait bien dire qu'elle était méprisable, que sa parole était méprisable, et que sa présence personnelle n'imposait pas. Mais c'est le don qui est grand. Il y a les dons de grâce plus grands. Et vous avez à les rechercher, dit l'apôtre. Quels sont-ils? C'est les dons relatifs à la parole, à la présentation, à la diffusion, on peut parler ainsi, de la vérité de Dieu dans l'Assemblée, parmi les saints. Les apôtres ont posé le fondement, et il n'y a plus d'apôtres du moment que la parole a été complétée. Nous avons à bâtir sur ce fondement des apôtres. Il y a les prophètes qui alors sont qualifiés, soit c'était le cas dans l'église primitive particulièrement, pour annoncer l'avenir, qui il y avait la prophétie au sens particulier, précis du terme, et puis ceux qui sont appelés, qualifiés par l'Esprit pour donner la volonté de Dieu dans le temps présent, pour des circonstances présentes, appliquant la parole d'une manière convenable pour le bien des saints et la gloire de Dieu. Il y a la prophétie en avant dans l'avenir, et il y a la prophétie en avant, si on peut parler ainsi, dans le présent. Et puis, les docteurs, les dons par lesquels la parole est mise entre les mains de tous et présentée, exposée, de manière à ce que l'on entre davantage dans la liaison des parties de la révélation, tout cela échappant toujours
à notre pauvre mesure, même avec le secours de l'Esprit Saint, mais les dons de docteur sont là pour cela. Les autres dons qui sont mentionnés viennent ensuite, n'est-ce pas? Ensuite, n'est-ce pas? Il y a en premier lieu les apôtres, d'abord les apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs. Et puis alors ensuite, les dons qui étaient, parmi lesquels certains attiraient tellement l'attention à cette époque et qui étaient recherchés par les Corinthiens et que ceux qui les détenaient exerçaient de façon à se faire valoir, ce don des guérisons, ce don des langues, des miracles, qu'il y ait encore des aides, qu'il y ait encore des gouvernements, nous n'en doutons pas, Dieu veuille les multiplier pour le bon fonctionnement, le meilleur fonctionnement des assemblées locales et de l'assemblée en général. Mais les miracles, les dons de grâce, guérison, les langues, qui oserait dire que l'Esprit de Dieu ne peut plus les susciter, et qui oserait dire qu'il en est doué à l'heure actuelle, je pense qu'il suffit de poser ces questions. Que nous retrouverons d'ailleurs au chapitre 14. Et en tout cas, l'apôtre met à leur rang les dons qui sont éminemment propres à ce que, dès le début du chapitre 14, nous trouverons, c'est-à-dire l'édification de l'assemblée. Et non pas l'intérêt des esprits ou la curiosité satisfaite, non pas ce qui peut attirer l'attention, mais ce qui édifie. Et l'édification ne peut se faire sans amour, et on comprend que l'apôtre termine en introduisant comme une magnifique parenthèse ce chapitre 13 sur l'amour comme étant le chemin le plus excellent, chemin le plus excellent vers les dons les plus grands, les plus profitables à l'assemblée que et nous avons à désirer et demander tous pour le bien de l'assemblée, et chemin, nous pouvons le dire, allant au-delà même de tout don, allant au-delà de tout service, allant au-delà de tout ce qui est de la terre, puisque nous sommes amenés jusqu'à ce qui demeure, non seulement ici-bas tant que l'Église s'y trouve, mais ce qui demeure dans ce qui est la demeure éternelle de l'Église, c'est-à-dire dans le ciel.
Désire avec ardeur des dons les plus grands. Il peut se trouver chez les individus et nous pouvons demander à ce que le Seigneur le produise. Il peut être produit dans l'assemblée aussi, que l'assemblée le demande. Il serait très, très précieux que des jeunes chrétiens soient engagés dans un chemin, dans ce chemin-là. Il n'y a pas de la vérité dans nos jours si difficiles à bien des égards. C'est la même que celle qu'avaient les apôtres. La vérité ne vieillit pas telle qu'elle est, elle répond à toutes les situations. Tout cela éprouve nos cœurs à tous. Ce que nous considérons là nous sonde c'est très bon. Pour que nous voyons dans quelle mesure notre vie chrétienne, service chrétien, individuel, collectif, dans quelle mesure il peut être l'effet d'une activité plus ou moins machinale. Avec le Saint-Esprit, jamais rien n'est machinal. Une même vérité peut-être pourrait être répétée 100 fois par l'Esprit avec une fraîcheur toujours la même, une puissance, une vie. Sans le Saint-Esprit, déjà la première fois, même une vérité exprimée est sans effet. C'est absolu, mais c'est ainsi, c'est parfaitement ainsi. Il y a un appel pour à nous tous pour que nous attachions au Seigneur, on ne dit pas cela. Que le Seigneur nous attache à lui. Ce serait mieux dans l'ordre des choses. Et un jeune chrétien peut très bien faire de nos jours une carrière avec le Seigneur. Une carrière qui soit bonne. Et s'il le fait, si le Seigneur lui accorde, comme une grande grâce, et il appelle en principe tout le monde à le faire, à coup sûr, il ne le regrettera pas quand sa carrière sera finie.
Combien nous aimons dire cela à ceux qui s'avancent en effet dans la carrière. Nous n'avons pas le temps qui est encore devant nous, qui est laissé à l'Église ici-bas. Nous attendons le Seigneur, mais s'il y a encore quelque temps, que beaucoup, que tous, ces jeunes gens, jeunes filles, jeunes frères, jeunes sœurs, jeunes chrétiens, jeunes chrétiennes, qui sont ici, qu'ils sachent que Dieu leur donne de savoir l'employer au service du Seigneur. Et qu'il désire des dons de grâce. Mais pas un esprit orgueilleux ou égoïste qui demandera véritablement cela. Mais un cœur pénétré par l'amour du Seigneur, un esprit qui se laisse enseigner par l'Esprit de Dieu, et une conscience exercée quant au droit du Seigneur sur les siens. Mais à tous, le même chemin nous est indiqué, le chemin le plus excellent, dans lequel on peut désirer ces dons de grâce, en effet. Mais l'amour en exercice, enfin, nous verrons cela, Dieu voulant, dans le chapitre 13. Mais je me permets d'insister sur cet appel à toute la jeunesse qui est ici. Parce qu'il semble quelquefois que toutes ces choses, oui, elles sont bonnes pour des gens qui ont déjà de l'expérience ou qui devraient en avoir en tout cas, et qui ont de la connaissance ou qui devraient en avoir en tout cas. Et en réalité, c'est pour de tout jeunes que cela d'abord est dit. À des chrétiens fidèles, mais ils n'en auraient pas besoin. À des chrétiens inconséquents, à des chrétiens charnels, oui, c'est à eux précisément qu'est adressée l'épître aux Corinthiens. Et c'est à des enfants. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Et voilà ce qu'il aurait après des exhortations, des admonestations, des avertissements qui étaient nécessaires et des enseignements de grand prix. Voilà ce qui maintenant leur est présenté. Voilà, vous n'avez pas conscience que vous êtes le corps du Christ. Vous avez pu rabaisser l'enseignement que vous aviez reçu et en faire quelque chose de charnel. Quelque chose en quoi vous vous glorifiez, en quoi vous trouvez une satisfaction pour vos propres convoitises. Mais non, considérez ce que fait le corps du Christ. Et comment il peut y avoir un corps du Christ? Et par quelle puissance? Souvenez-vous que s'il y a un Saint-Esprit sur la terre, c'est parce que il a d'abord été et dans la même puissance qui maintenant repose dans l'Assemblée, il a été sur Christ ici-bas, l'homme, Christ Jésus, point de l'Esprit Saint et de puissance. C'est ce même Esprit qui maintenant est à l'œuvre au milieu de vous. Est-ce que vous voulez le mépriser? Est-ce que vous l'attristez? Que ces questions portent sur toutes nos âmes, n'est-ce pas? Mais qu'elles soient particulièrement sur nos jeunes amis, jeunes frères et sœurs, pour la gloire du Seigneur. Oui, à ces Corinthiens, dans l'état où ils se trouvaient, voilà les vérités qui leur sont présentées. Oh, ce ne sont pas encore les vérités de l'Épître aux Éphésiens, sans doute, mais du moins, ceci, vous êtes, non pas vous êtes appelé à être, non pas je vous exhorte à être, mais vous êtes le corps du Christ. Et vous avez à vous conduire comme étant ses membres, chacun en particulier.
L'un des plus précieux dons que Dieu ait donné à ses assemblées, raconter qu'étant jeune, il désirait servir le Seigneur. Mais il aurait pensé manquer d'humilité que de demander des dons de grâce. Et un jour, son attention a été attirée sur cette exhortation répétée à la fin du chapitre 12 et au début du chapitre 14, désirer avec ardeur les dons de grâce. Et il a compris que un tel désir devait tout naturellement s'exprimer dans la prière. Et Dieu a répondu.